Bon, le record est on. Om Namo
Om Namo Bhagavate
Bhagavate
Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om
Om
Namo
Namo
Bhagavate
Bhagavate
Vasudevaya.
Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om
Om Namo
Namo
Bhagavate
Bhagavate Vasudevaya.
Vasudevaya.
Srila Prabhupada ki jai.
Jai.
Alors, on va commencer le cours. On commence un nouveau module aujourd'hui, le module 2. Alors, c'est à la page 39. Ananda, est-ce que tu voudrais lire?
Oui, alors, bien sûr, je me mets juste à la page. Tac. Parfait. Alors, Martyaloka, le domaine de la mort. Bien entendu, la durée de la vie varie selon les espèces. Brahma, le plus important des êtres vivants, vit des millions d'années, quand certains microbes n'existent que pour quelques heures. Cependant, quelle que soit la durée de la vie, la mort demeure inévitable ici-bas. Tout est sujet, après la naissance ou la création, à survivre un certain temps pour finalement dépérir et être anéanti. Sous le joug de cette loi, tous les êtres doivent, tôt ou tard, payer leur tribut à la mort, qui n'épargne pas même les Brahmas. C'est pourquoi on désigne l'univers matériel sous le nom de Martyaloka, le domaine de la mort.
Ouais.
Jai.
Continue.
Parfait. 2.1. Bien entendu, la durée de la vie varie selon les espèces. La vie vaut ce qu'elle vaut en ce monde. Qui peut vraiment en saisir la valeur et en découvrir le but ultime? Ce n'est pas évident pour quiconque se fie uniquement à ses sens pour tout découvrir de la vie. Telle est plutôt la voie de l'ignorance, à commencer par l'ignorance de soi en tant qu'être vivant différent de la matière. Sur le plan matériel, la vie s'avère sans valeur pour quiconque ne vit que pour les sens. Mon cher Arjuna, l'être humain qui n'accomplit pas le cycle de yajna établi par les Védas vit assurément dans le péché. Ne vivant que pour le plaisir des sens, son existence est vaine. Bhagavad Gita, chapitre 3, verset 16. Cependant, la vie prend tout son sens chez quiconque prend conscience de son identité spirituelle sous la directive d'un pur bhakta et se joint à la compagnie de spiritualistes absorbés particulièrement dans le service de dévotion. Cette compagnie est à juste titre appelée Satsanga. En compagnie de spiritualistes avertis dans la science de la bhakti, l'activité en propre de toute âme réalisée, l'on peut apprendre et tout comprendre à l'essentiel de la vie. Juste arranger mon écran. Hop là. Ah, voilà. C'est ainsi et seulement ainsi que l'on peut arriver à en saisir le but ultime, le chérir et l'atteindre. Tel est l'avantage. L'on peut ainsi saisir le portrait complet de la vie. Il en est tout autrement des personnes sous l'empire de l'énergie matérielle, qu'elles en soient conscientes ou non, chez qui la satisfaction de leur sens va de soi. Tel est leur petit train-train de raison d'être naturel, sans savoir que cette dernière n'est due à leurs dépens qu'à la dictée des trois gunas. Une telle condition de vie est artificielle pour l'âme, mais l'âme ainsi conditionnée est abrutie. Elle ne peut comprendre tout simplement pas la situation. C'est malheureux de constater que ces gens baignent ainsi dans les ténèbres de l'ignorance, mains et poings liés. Il leur faudra une âme libérée de pareil joug pour les libérer à leur tour. Il y a donc un résultat à s'associer avec des personnes saintes, satsanga, et un autre dans le cas contraire, asatsanga, avec des personnes gagnées au matérialisme. Une voie évolue sur le plan spirituel, tandis que l'autre, sur le plan matériel, perpétue l'enchaînement de ses acteurs à l'existence matérielle. La durée de vie varie selon les espèces et les planètes. On dénombre 8 400 000 à travers l'univers d'après les écritures védiques. En ce qui a trait à la vie humaine, elle se résume à une centaine d'années. À ce propos, nous trouvons un verset révélateur dans le Srimad Bhagavatam, chant 1, chapitre 25, verset 43. Narada Uvacha, Iti Todam Patitatra, Samudya Samayam Mita, Tam Pravichya Purim Rajan, Mumudate Satam Sama. Narada Uvacha, Narada le grand sage, dit, Iti ainsi, To il, Dampati, mère et femme,
Mari et femme.
Tatra, pardon, mari et femme, excusez, Tatra la, Samadhya, Samudya, partageant un enthousiasme égal, Samayam, s'acceptant l'un l'autre, Mitya, réciproquement, Tam, en ce lieu, Pravishya, entrant, Purim, en cette ville, Rajan, au roi, Mumudate, ils jouirent de l'existence, Satam, sang, Sama, année. Le grand sage Narada poursuivit. Ô roi, soutenu par les sentiments de réciprocité qui les animent, l'homme et la femme entrèrent dans cette ville où ils vécurent heureux pendant 100 ans. Teneur rapportée, ces 100 années revêtent ici une signification particulière, car cela correspond à la longévité allouée à chaque être humain. La durée de l'existence diffère d'une planète à une autre selon la distance qui les sépare du Soleil. En d'autres termes, 100 années terrestres diffèrent de 100 années vécues sur une autre planète. Brahma, par exemple, vit pendant 100 années, selon le calcul du temps établi par sur Brahmaloka, mais un seul jour de Brahma équivaut à des millions d'années terrestres. De même, un seul jour des planètes édéniques équivaut à 6 de nos mois terrestres. Néanmoins, sur chaque planète, les êtres appartenant à l'espèce humaine vivent environ 100 ans. Et la qualité de la vie y est différente en fonction de la longévité de ses habitants. Mais pour un dévot averti, quelle est la valeur de la vie d'ici ou d'ailleurs? Bonne question. Vous vous êtes déjà posé la question? La question mérite réflexion. Un dévot situé sur le plan spirituel n'accorde aucune importance à la durée relative de la vie matérielle. Comment cela? Parce que son échelle des valeurs est différente. Une seconde ou 1 milliard d'années sans conscience de Krishna, c'est l'horreur et se résume à 0 valeur. Tandis qu'inversement, une seconde ou 1 milliard d'années engagée au service du Seigneur est d'une valeur inestimable. Seul le Seigneur connaît la pleine portée de pareil service. Le dévot est assuré de la portée d'éternité du service de dévotion. Le dévot connaît sa position d'éternel serviteur du Seigneur, peu importe les circonstances de la vie, et il est heureux d'en être tout à fait conscient par la grâce de son maître spirituel. Il accepte son sort tel quel. Il n'a aucune autre aspiration que de servir le Seigneur en tout temps, peu importe. Sa destinée est entre les mains du Seigneur. Il n'a aucun souci à ce sujet, car il s'est abandonné de tout cœur au Seigneur. Sa joie vient du chant constant des saints noms du Seigneur. C'est ce chant même qui garde le dévot constamment engagé dans le service de dévotion offert au Seigneur avec amour. À ses yeux, il n'y a rien de mieux dans la vie.
Ah, merci beaucoup.
Jai.
Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires?
Non, merci.
Non, merci beaucoup.
Bon, on passe à autre chose. Bon, alors, Hare Krishna. Om Gyanat Varandasya Granjana Sadakaya Chakshurun Minitam Yena Tasmai Shri Gurudeva Namah Shri Prabhupada Ki Jai.
Jai.
Alors, la moindre des... Bon, on va commencer par le début. Bon, la vie vaut ce qu'elle vaut en ce monde. Bon, et surtout dans l'âge de Kali, dans l'âge où l'on vit actuellement, la vie ne semble ne pas valoir grand-chose parce qu'il y a beaucoup de guerres. Et même si ce n'est pas des guerres qu'ils appellent des guerres chaudes où les gens s'entretuent, il y a des guerres froides entre les gens aussi, où les gens ne s'aiment pas plus que ça, se détestent, se méprisent, et ça rend la vie difficile pour tout le monde, pour toutes les personnes intéressées. C'est bon, c'est quitte à se demander si la vie Parfois, du monde peut se poser la question, est-ce que la vie vaut vraiment la peine d'être vécue? Et il y en a qui arrivent à la conclusion que non, et se suicident. Alors, ces gens-là manquent le bateau. Ils n'ont aucune, ils ont manqué le bateau. Alors, pour un dévot de Krishna, quelle est la valeur de la vie? Est-ce qu'il le sait par lui-même? La question est posée.
Il a besoin d'un maître spirituel pour du maître spirituel pour lui montrer la vraie valeur, mais
Exactement.
il va finir par la savoir au bout d'un moment quand même.
Ouais, justement, c'est ça la réponse. C'est que sans un pur dévot, sans un maître spirituel, c'est impossible d'arriver à vraiment comprendre quelle est la valeur de la forme humaine de vie. Alors, Srila Prabhupada, dans ses débuts, dans les années 60, mettons 66 et plus, si on regarde, si on étudie les classes de Prabhupada, ce sujet-là revient souvent, à savoir la rareté. Prabhupada a prêché mille et une fois sur la rareté de la vie humaine. Beaucoup, beaucoup de conférences, de classes, pour enseigner aux gens que la forme humaine de vie, c'est un cadeau. Et c'est très rare d'obtenir une forme humaine de vie. Très, très rare. Alors, il y a un grand poète, Vaishnav, cette chanson, justement, Bajaure Mana Srinandanandana, Abhaya Charana Raravindare. Ensuite, ça dit dans la chanson, Durlabha Manava Janamama Satsangi. Durlabha veut dire très difficile d'obtenir une forme humaine de vie. Alors, avant la forme humaine de vie, l'âme conditionnée a passé à travers 8 millions minimum d'espèces de vie différentes pour arriver finalement à une forme humaine de vie dénombrée par disons, au nombre de 400 000. Prabhupada dit qu'il y a 400 000 formes humaines de vie. Mais avant ça, il y a 8 millions. Alors, ça n'en fait des naissances et morts, ça. Alors, comme Krishna dit dans la Bhagavad Gita, chapitre 7, verset 19, Bahunam Janmanam Ante. Bahunam, c'est le mot Bahunam en sanskrit, c'est traduit, disons, dans la Bhagavad Gita, chapitre 7, verset 19, par après de nombreuses naissances. Mais en fait, si on creuse le sanskrit un peu, Bahunam, ça veut dire des millions. Après des millions de naissances, finalement, l'âme obtient une forme humaine de vie. Alors, Krishna dit, après des millions de naissances, après de nombreuses naissances, l'homme sage qui me connaît s'abandonne à moi, reconnaît que Vasudeva est la cause de toutes les causes, qu'il est tout ce qui est. Ça, c'est l'homme sage. Alors, très rare d'avoir une forme humaine de vie, et très rare. Tout ça, ça va ensemble. Sans la bénédiction de l'association d'un pur dévot de Krishna, de ses enseignements, c'est très difficile d'arriver par les sens matériels à découvrir quel est le sens de la vie. Alors, au niveau matériel, vous pouvez écouter des documentaires ou des films quelconques qui vont vous laisser entendre que telle ou telle personne avait tel ou tel but dans la vie. Il semblerait que juste par cette association, que ce soit des bons buts. Tu vois, des gens parfois vont dire, ah, tel ou tel, un tel ou un tel ou une telle ne vivait que pour ça. Comme par exemple, disons, d'un point de vue matériel positif, ils vont dire, ah, cette personne-là aimait aider les autres. Comme, mettons, Mère Teresa ou autre. Mais d'un point de vue spirituel, de aider les autres sans, s'il n'y a pas de compréhension de aider l'âme, ça demeure au niveau matériel et il y a des réactions pour ça. Alors, ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre justement les complexités. Même Krishna dit, même pour les grands sages, c'est difficile de comprendre les complexités de l'action. C'est dans Bhagavad Gita. Comprendre les actions, réactions. Alors, où se situe un dévot? Un dévot est dans un vrai dévot. Un dévot qui est supposé d'être un dévot tel qu'il se doit est sous la protection de l'énergie spirituelle de Krishna. Et c'est la grâce de Krishna. Alors, comme Krishna explique aussi dans le Bhagavad Gita, celui qui offre tout à Krishna, là, je me souviens pas du verset, mais je me souviens au moins de l'enseignement, lequel verset en question, Krishna dit, mettons, celui qui offre toutes ses actions à Krishna, le fruit de ses actes à Krishna, même s'il agit, il fait beaucoup d'actions, n'est pas empêtré par les réactions. Alors, ça, c'était une réponse, une explication de Krishna à Arjuna. Parce qu'Arjuna, son argument, c'était, hey, je peux pas combattre. Parce qu'il va y avoir tellement de réactions négatives. Alors, j'aime autant me tenir à l'écart de tout ça et rien savoir. Mais Krishna lui explique justement, quand c'est pour une juste cause, même s'il n'y a pas de réaction. Alors, un dévot est comme, et disons, si on peut dire en langage populaire, est une espèce protégée, un dévot. Parce que, un, ce qu'un dévot mange, c'est la nourriture offerte à Krishna. La nourriture offerte à Krishna a des pouvoirs. Et Prabhupada écrit dans le Bhagavad Gita, celui qui mange la nourriture offerte à Krishna peut résister à toutes les attaques de l'énergie matérielle, simplement en mangeant le prasad, la nourriture offerte à Krishna. Deux, cette nourriture purifie de toute réaction pécheresse, c'est offert à Krishna. Alors, Prabhupada explique aussi, les impersonnalistes vont éviter les mets savoureux de peur d'être empêtrés matériellement parlant. Ah, pour eux autres, on touche pas à ça, là. C'est comment on peut dire, c'est trop bon pour être apprécié, trop bon pour être vrai. Alors, eux autres, ils vont s'abstenir, font des austérités. Dieu sait combien de temps difficile il se donne. Mais un dévot, lui, Prabhupada dit, peut préparer des mets délicieux, les offrir à Krishna et honorer comment on peut dire, les reliefs de cette nourriture offerte à Krishna. Alors, il y a un monde de différence quand Krishna fait partie de la conscience d'un dévot. Alors, d'un autre côté, un dévot, s'il est pour être un dévot, ben, il devrait être un dévot à 100%, donc, comme on dit en anglais, all the way. Sur toute la ligne, un dévot. Évidemment, un dévot néophyte n'a pas un point de départ où il est à 100% dès le départ. Ça vient avec le temps. Ça vient avec une purification de la conscience chez le dévot. Alors, comment le dévot arrive à ça? Ben, on le lit ici aujourd'hui, page 41, dernière ligne, ou avant-dernière ligne, ta minute, ligne 22. La joie d'un dévot vient du chant constant des saints noms du Seigneur. C'est ce chant même qui garde le dévot constamment engagé dans le service de dévotion offert au Seigneur avec amour. Tout est là-dedans. La conscience de Krishna, c'est ni plus ni moins juste ça. C'est chanter à la Krishna et recevoir par grâce l'intelligence de voir clair, de, comment on peut dire, de s'engager, de s'immerger dans le service de dévotion. Alors, c'est soit on est au service de Krishna, soit on est au service de l'énergie matérielle. C'est un ou l'autre. Alors, c'est un choix constant. Mais un dévot, s'il chante constamment, ou du moins il essaie de chanter constamment, ben Krishna réciproque avec ce dévot-là. Peu importe si le dévot a peut-être des faiblesses ou peut-être des manques, Krishna voit aussi personnellement à combler les manques chez un dévot. Donc d'un point de vue spirituel, mais aussi même matériellement parlant, un dévot, Krishna s'en occupe de ses besoins matériels aussi. Ce fait que le dévot mène une bonne vie, que ce soit d'un point de vue matériel ou d'un point de vue spirituel. Puis ça, c'est la grâce de Krishna pour un dévot. Alors, Hare Bol, Madhavananda.
Hare Krishna, Prabhu. J'avais oublié que c'était à 7 heures, alors...
C'est correct. Pas de trouble. Pourvu que tu sois là.
Ben, ça me fait plaisir d'être avec vous autres. Ça me fait vraiment plaisir.
Ouais, nous aussi d'ailleurs. On apprécie beaucoup. Alors, on a lu aujourd'hui la page 40 jusqu'à 41, jusqu'à la ligne 25, si tu veux, de la page 41. C'est ça qu'on a lu aujourd'hui. Bon. Alors, on parlait tantôt que la vie humaine est très rare, très précieuse, et que on devrait en être conscient. Mais on ne peut pas en être conscient par soi-même. Ça prend un pur dévot de Krishna pour nous l'enseigner, pour nous le faire comprendre, pour nous le répéter continuellement. Que la forme humaine de vie est très précieuse et qu'elle doit être utilisée pour la réalisation spirituelle. Alors, dans un premier temps, c'est le pur dévot qui nous le dit. Mais dans un deuxième temps, c'est soi-même qu'il faut se le répéter continuellement. Alors, si on a bien écouté le pur dévot qui nous convainc, jusqu'à nous convaincre que vraiment la forme humaine de vie est spéciale, qu'elle a une mission, la réalisation spirituelle. Mais après, quand on est laissé à nous-mêmes, il faut se le redire, il faut le réécouter, il faut être conscient de cette importance de la forme humaine de vie. Alors, ce qui amène à une caractéristique d'un dévot. N'importe quel dévot, disons, si on peut dire, qui se respecte. Donc, qui se respecte dans le sens, un dévot qui a une valeur intrinsèque en tant que dévot. Il a une caractéristique avec tous les autres dévots qui se respectent. C'est à savoir que le dévot ne perd jamais de temps. Il ne perd pas de temps dans des choses inutiles. Alors, il utilise son temps au service de Krishna. Et il y a 9 activités dévotionnelles qui peuvent très bien l'occuper. Alors, écouter au sujet de Krishna, parler de Krishna, se souvenir de Krishna, servir les pieds pareils au lotus de Krishna, rendre service à Krishna, offrir des prières à Krishna. Quoi d'autre encore? s'abandonner complètement à Krishna, se lier d'amitié avec Krishna. J'ai l'impression que j'en oublie, là. Mais il y en a 9 en tout. Alors, Prabhupada dit, on peut s'engager dans les 9 activités, ou dans 8 activités, ou dans 7 activités, mais au moins une. Ça va nous tenir engagés dans le service de dévotion offert à Krishna. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
J'ai juste une petite question pour revenir à ce qu'on disait au début. Mais du coup, je me demande comment on explique d'un point de vue vraiment très, je dirais, nombre, comment on explique qu'on n'arrête pas d'avoir plus en plus d'humains en fait sur Terre, comme dans le sens, comme vu qu'on est dans le Kali Yuga, j'ai l'impression que c'est devrait être au contraire, on devrait avoir de moins en moins, je sais pas, c'est ma question et
C'est une bonne question. Et la réponse est bien simple. C'est que en tout cas, ça c'est mon opinion, là. Mais dans le monde matériel, il y a une force qui mène le tout. Et c'est la force de l'attraction sexuelle. Alors, comme Prabhupada explique, c'est expliqué dans le Srimad Bhagavatam, les êtres humains qui pratique l'avortement, c'est un moyen artificiel de contrecarrer la naissance, et c'est condamnable d'un point de vue karmique. Prabhupada explique ça, donne ce point de vue-là, mais il donne aussi le second point de vue, à savoir que les gens qui font ça ou qui pensent que c'est bien de faire ça, ignorent que si quelqu'un est engagé dans la réalisation spirituelle, automatiquement, il y a le contrôle de la naissance. Parce que les gens ne se laissent pas aller, disons, à leur tendance animale, dont justement les impulsions sexuelles, laisser libre cours à. Alors, dans la réalisation spirituelle, il y a un contrôle, une maîtrise des sens. Et la maîtrise des sens, c'est pas artificiel, c'est simplement parce qu'il y a un engagement supérieur qui démotive l'engagement inférieur, qui est la recherche du plaisir des sens. Alors, encore là, une question de philosophie, de compréhension. Comme on a expliqué au tout début, dans ce qu'on a lu aujourd'hui, en tout cas, dans la réalisation spirituelle, il y a 3 choses. Apprendre ce qu'est le corps, apprendre ce qu'est l'âme, et apprendre ce qu'est Dieu, la personne suprême. Alors, quelqu'un qui est sérieux dans cette compréhension de ces 3 sujets-là, ben, c'est naturel, c'est conséquent avec sa compréhension qu'il va avoir une retenue. Il va pas se laisser simplement aller à la recherche du plaisir des sens. Comme c'est le cas dans la vie matérielle où c'est un, comme on dit en anglais, là, c'est un free for all pour les êtres humains. Pour les êtres humains, c'est laisser libre cours pour beaucoup de monde. Manger, dormir, s'accoupler, se défendre. Pour eux autres, si les gens ont du succès dans ces activités-là, c'est le bonheur. Et même là, parmi les êtres humains, c'est pas donné à tout le monde de satisfaire ces 4 activités-là comme ils en auraient envie non plus. Alors, il y a des restrictions, soit par, en tout cas, la vie matérielle est faite comme ça. C'est pas tout le monde qui est chanceux dans la vie matérielle. Et d'un autre côté, d'un autre point de vue, du point de vue, comme on a expliqué tantôt, il y a 8 millions d'espèces de vie. À part les êtres humains, il y en a 8 millions. Ils sont la majorité dans le monde matériel. Mais ces 8 millions d'espèces-là, respecte les lois de la nature. Alors, par exemple, s'accoupler, c'est un certain moment dans leur existence. C'est pas à l'année longue ou à journée longue. Il y en a des espèces, ça semble être à la journée longue. Mais ils suivent les lois de la nature. Il n'y a pas de péché de leur part. Mais un être humain, lui, est tenu responsable de ses actes par les lois de la nature. Et il est tenu responsable de poursuivre le but de la forme humaine de vie, qui est la réalisation spirituelle. C'est les lois de Dieu qui sont comme ça. Alors, si l'être humain, une fois qu'il a obtenu une forme humaine de vie, n'en profite pas pour se réaliser spirituellement, ou du moins faire une démarche spirituelle, les lois de la nature seront pas gentilles avec lui la prochaine fois. Ils peuvent l'envoyer promener dans une espèce de vie qui dans laquelle il va souffrir. Alors, énormément. Alors, comme par exemple, on lit dans les Chopinshad au début, ceux qui tuent l'âme, Atmahana. Voyons un verset comme ça au début de la Chopinshad, Atmahana, ceux qui tuent l'âme vont se retrouver dans des espèces, dans les plus profondes ténèbres de l'univers, dans le futur. Alors, c'est pas drôle. Alors, la vie matérielle, pour un dévot, doit être perçue comme, si vous voulez, une course à obstacles. Si vous voulez arriver à vos fins dans l'existence matérielle, ben, préparez-vous parce qu'il y a de nombreux obstacles dans la vie matérielle elle-même. Et pour la vie spirituelle, il y a des obstacles qui sont justement les attachements à l'existence matérielle. Ce sont des obstacles, ça aussi. Alors, c'est pas facile. Et Prabhupada explique que l'énergie matérielle a cette fonction-là de tester un aspirant spiritualiste à savoir jusqu'à quel point il est sérieux pour désirer Krishna. Alors, s'il est vraiment pur et très honnête, très motivé pour atteindre Krishna, ben, ces obstacles-là sont diminués. Ça veut dire qu'ils sont moins obstructeurs. Ils font moins obstruction. C'est-à-dire, ils peuvent être là. Mais le dévot, c'est comme si, genre, là, comme vous voyez dans les jeux vidéo, là, le petit bonhomme qui est capable de sauter, puis il saute par-dessus l'obstacle, puis il s'en va, là, le Mario, je sais pas quoi. Alors, il est capable de tout surmonter puis s'en aller allègrement. Alors, un dévot de Krishna est supposé d'être comme ça, même si ça a de l'air drôle comme comparaison. Mais néanmoins, il y a une certaine vérité à ça. Alors, donnons un exemple, parce que pour donner des exemples, le meilleur exemple, un des meilleurs exemples qu'on peut donner, c'est Haridas Thakur. Haridas Thakur, lui, s'il n'a pas été testé, je me demande qui voulait rivaliser avec lui de ne pas être jamais avoir été testé. Mais Haridas Thakur, c'est le Namacharya. C'est le maître enseignant par l'exemple de chanter les saints noms du Seigneur. Alors, Haridas Thakur a été mis au défi. Maya elle-même est venue en pleine nuit pour essayer de le séduire. Et lui, Haridas Thakur, lui dit, bon, ben, j'ai 300 000 Hare Krishna m'ont chanté, là. Alors, Maya est partie. Elle est venue plus d'une fois. Et à la fin, Maya dit à Haridas Thakur, elle dit, j'ai fait tomber tout le monde. Même le Seigneur Brahma, j'ai fait tomber. Mais toi, je n'ai pas réussi. Avec Haridas Thakur. Alors ça, c'est la position d'un dévot. Halidas Thakur a été condamné à être fouetté sur 22 marchés. Et lui, il chantait à Krishna, il s'est absorbé dans Krishna. Sa conscience était fixée sur Krishna. Puis, et par la grâce du Seigneur Chaitanya, Haridas Thakur ne sentait pas la douleur. C'est le Seigneur Chaitanya qui encaissait toute la douleur pour lui. Il était protégé par le Seigneur Chaitanya. Alors, les dévots de Krishna, sont spéciaux. Dans le sens qu'ils doivent avoir pris refuge. Il faut qu'ils prennent refuge au pied pareil au lotus de Krishna. Et Krishna les protège en retour. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires?
Bravo.
Merci.
J'avais une question.
Oui.
Tout à l'heure, vous avez dit ceux qui tuent l'âme.
Oui.
Mais c'est seulement en idée, mais pas physiquement là.
C'est ça, c'est pas une idée. Donc, alors, la façon que c'est expliqué, tuer l'âme, ça veut dire, par exemple, avoir zéro intérêt pour la réalisation spirituelle. Oui. Alors, comme par exemple, la personne a une forme humaine de vie, mais pour elle, c'est le matérialisme qui est important. Alors, pour elle, c'est, on va donner le cliché classique, là, faire de l'argent, boire, s'amuser, profiter de la vie, s'il peut devenir le président du pays, tant mieux pour lui, puis il pourra jouir de la vie. Même s'il est corrompu avec des, comment on appelle ça, donc, quand tu es soudoyé, des bribes,
Des pots de vin.
des pots de vin, c'est ça. Même à avoir des pots de vin, il va les prendre. Why not? C'est la vie qui est belle. Il va tout prendre, qui vient sur son chemin, par la grâce de Dieu. C'est comme les Américains, ils ont cette devise. In God we trust. Oh boy. In God we trust, let us see. Voyons voir jusqu'à quel point they trust in God, parce qu'il n'y a pas grand trust qui se promène là-bas. C'est tout à fait relatif. Alors, on ne peut pas critiquer pour rien, là. Ils font des belles choses. Il y a des belles choses que les Américains font très bien, matériellement parlant, là. C'est pas mal de fun. Mais il y a beaucoup de choses qui sont en dehors de la voie de la réalisation spirituelle et c'est comme ça pour tout le monde, pas juste les Américains, c'est toutes les nationalités. La minute qu'il n'y a pas de conscience de Dieu, c'est dans le matérialisme, c'est tout. Même le plus pauvre des pauvres peut être matérialiste. C'est aussi simple que ça. Alors, un dévot fait attention parce que il a la connaissance. Deux, il a un maître spirituel à qui comment on peut dire, il doit rendre des comptes dans un sens. Dans le sens que si le maître spirituel prend son karma, alors lui, il doit agir d'une façon, qui est recommandé par le maître spirituel, éviter les activités pécheresses, puis s'engager positivement dans le service de dévotion offert à Krishna. Tout ça va ensemble. Alors, le dévot est redevable à d'autres dévots, et par la grâce de Krishna, la grâce de Krishna, ça veut dire pratiquement parlant, c'est l'association des dévots. L'association d'un pur dévot, la compagnie d'un pur dévot, les enseignements d'un pur dévot, la compagnie des autres dévots. Tout ce qui tourne autour du service de dévotion, qui fait partie du service de dévotion, ça c'est la grâce de Krishna. Alors un dévot, il a toute cette protection-là dont il peut bénéficier et c'est son atmosphère. Un dévot, c'est comme ça. Alors, il vit dans l'association des dévots. S'il n'y a pas de dévot physiquement parlant à côté de lui, là, mentalement parlant, il recherche toujours l'association des dévots. Il vit avec des dévots. Alors, le dévot connaît le corps, connaît l'âme. S'il connaît l'âme, quelle est la position de l'âme? Éternel serviteur de Krishna. Alors, il faut qu'il s'engage en tant qu'âme et connaître Krishna. Alors, Krishna, ça, il y a des livres et des livres et des livres. Il y a tous les Védas. Et le but des Védas, c'est d'apprendre à connaître Krishna. Donc, Krishna dit dans le Bhagavad Gita, Vedaishcha Sarvai Aham Eva Vedyo. C'est-à-dire que de tous les Védas, je suis la personne à connaître. Ça donne rien d'étudier les Védas si en bout de ligne, t'arrives pas à connaître Krishna, qui est la source de tout ce qui existe. Alors, évidemment, il y en a qui auront d'autres points de vue là-dessus. Alors, il y a des savants matérialistes qui vont consulter les Védas pour qu'est-ce que les Védas peuvent contribuer à leur poursuite matérielle. Mais le but des Védas, c'est d'arriver à connaître Krishna, apprécier Krishna. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Merci.
Bon, un petit coup d'eau, ça ne fait pas de tort. Bon, alors voilà. Bon, ben, on va continuer. Le point 2.2. Lynn, voudrais-tu lire?
Oui. Brahma, le plus important des êtres vivants, vit des millions d'années quand certains microbes n'existent que pour quelques heures. Tout est parfaitement contrôlé dans l'univers et pourquoi ne pas dire dans le monde matériel antique qui, lui, est composé d'innombrables univers. Tous les êtres peuplant l'univers ont leur durée de vie respective en fonction de leur karma, c'est-à-dire en fonction des réactions à leur acte passé. La loi du karma les rive aux conditions de vie de telle ou telle planète précise pour y souffrir ou jouir des plaisirs de la vie en termes d'une certaine durée de vie, sans plus. La durée de vie varie d'une planète à l'autre, comparable à diverses sentences de prison. Ces sentences ont pour différence que d'un point de vue global, les dites sentences sont prolongées à vie d'un corps à un autre. À la fin, les problèmes du passage de la naissance à la mort demeurent perpétuellement irrésolus. Tel est le cas de toutes les espèces, n'épargnant non plus la majorité des êtres humains qui n'ont pas su profiter de leur forme humaine de vie pour se réaliser spirituellement. En revanche, le sort est différent pour un être humain qui a su, par la grâce d'un maître spirituel authentique, emprunter la voie de la réalisation spirituelle. La Bhagavad Gita 2.40 nous dit « Aucun effort dans cette voie n'entraîne la moindre perte, et tout progrès, si modeste soit-il, prévient du plus redoutable danger. Voilà la véritable échelle des valeurs. La voie du service offert au Seigneur est d'une valeur inestimable car elle permet de continuer de vie humaine en vie humaine, permettant ainsi de continuer le progrès accompli. Autrement dit, le retour à la raison est salutaire et permanent pour qui a su par la culture du savoir spirituel comprendre sa position originelle éternelle, d'âme éternellement destinée à se vouer au service d'amour de Dieu, la personne suprême. Il est très rare de trouver un être humain versé de tout cœur dans la conscience de Krishna. Nul ne peut parvenir sans comprendre intelligemment la science de Dieu telle qu'elle est sous directive experte d'un pur bhakta. Il n'y a qu'un seul Dieu pour tous. Toutes les âmes conditionnées l'ont oublié depuis des temps immémoriaux. Elles se sont mis les pieds dans les plats et souffrent. Elles n'ont point d'explication pour leur sort. Elles ne savent pas quoi faire, ni ne savent où elles s'en vont. Elles ne peuvent que chercher un vain répit dans des plaisirs chimériques sans pouvoir ni savoir mettre le doigt sur le bobo de leur existence conditionnée. Elles sont faites de nature pour connaître la félicité. Elles la recherchent à travers la satisfaction de leurs sens, mais la félicité ne vient jamais ainsi. Entre-temps, leur enchaînement à la matière continue. Un très grand privilège est accordé à une âme conditionnée quand elle est capable de réaliser tout de même sa relation éternelle qui l'unit à Dieu par grâce divine reçue par l'intermédiaire d'un pur bhakta. Les divers termes d'incarcération dans un corps matériel pour telle ou telle durée de vie sont savamment décrits dans le Srimad Bhagavatam 3.11.33.
Merci,
Evan,
merci, merci.
OK.
Avant de s'embarquer dans l'autre, là, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Bon, alors.
Moi, je voudrais juste que tu, si tu pouvais nous éclairer sur les 400 000 formes de vie humaine, parce qu'en fait, je me pose la question tout à l'heure.
Bon, alors, Prabhupada explique, c'est 400 000 espèces de vie humaine sont réparties à travers l'univers.
OK.
Alors, est-ce qu'on connaît toutes ces formes humaines de vie? Non. Déjà sur la Terre, il y en a déjà assez comme c'est là.
C'est ça,
Donc,
justement. Est-ce que justement sur Terre déjà, on considère justement toutes ces formes de vie en fonction
ben,
de
disons, grosso
la
modo,
vie?
on pourrait dire qu'il y en a 3-4, quelque chose de même. Là, ça, si on y va, mettons juste par la couleur de la chair humaine. C'est comme ça qu'ils ont divisé ça, là. Mais il y a une variété sur la Terre, mais c'est sûr qu'il n'y en a pas 400 000 ici, là.
OK. Merci.
Alors, c'est réparti à travers l'univers. Dieu sait comment, Dieu sait où. Et puis avec leur façon de faire des recherches spatiales, Dieu sait dans combien de temps ils vont arriver. Puis qu'ils vont dire, ah, on l'a trouvé ailleurs. Ils ne sont pas prêts à dire ça tout de suite. Même s'ils trouvent, là, c'est leur jeu de tout cacher, puis de rien laisser savoir. Puis la formule scientifique, c'est de dire qu'il n'y a pas de vie nulle part ailleurs que sur la Terre.
Ah ben,
Alors,
l'ego, nous sommes le centre du monde, de l'univers.
ouais, disons, il n'y a pas de vie ailleurs, mais pourtant, si on lit les écrits védiques, il y a des descriptions sur d'autres planètes, des descriptions des planètes édéniques, des planètes infernales, c'est décrit dans le Srimad Bhagavatam. Comme on a dit au dernier cours, si je ne m'abuse, le dernier ou l'avant-dernier, Prabhupada explique, les savants ils perdent leur temps. Il n'y a pas besoin de faire de recherche. Tout est là. Tout est là dans les écrits védiques. Pourquoi perdre son temps? Et comme par exemple, s'ils veulent aller sur la Lune, soi-disant, comme Prabhupada dit, ils n'ont jamais été sur la Lune. Ils peuvent avoir été sur une autre planète, Rahu, mais qui n'est pas la Lune, parce que la Lune est beaucoup trop loin avec les vaisseaux spatiaux que les humains ont. La distance est trop loin. Si on fait le calcul en termes de Srimad Bhagavatam, c'est trop loin. Ils ne seront jamais capables d'y arriver. Alors, et même s'ils vont, ils ne seront pas permis de rester là. Pourquoi? De un, il y a les conditions physiques, matérielles, mais de deux, c'est que les habitants qui sont là ne vont pas leur permettre de rester non plus. C'est genre, toi tu rentres pas ici, là. C'est genre la police t'attend à la porte. Toi tu rentres pas, là. Pourquoi c'est comme ça? Parce que les lois de la nature matérielle veulent que si pour être admis sur une planète édénique, tu dois avoir un karma d'actes pieux qui correspond. Et si tu ne l'as pas, c'est bien de valeur, mais tu n'as pas d'affaires là, mais tu vas pas être permis de rester là non plus. Alors, c'est comme dans les divertissements de Krishna. Les divertissements de Krishna, il y avait des êtres démoniaques. C'est ceux qui venaient. Un venait pour tuer Krishna, puis si jamais ils étaient proches de Krishna, ben Krishna les éliminait. Une fois, il y avait un démon qui quel est le nom de ce démon-là? Je pense que c'est Vatsasura, son nom. En tout cas, il y avait un démon, et lui, les démons que Kamsa envoyait à Vrindavan, tous avaient une façon de prendre une autre forme et venir s'en prendre à Krishna. Alors, la première démon, c'était Putana, qui s'est fait une très, très belle gopie. Tout le monde n'y a vu que du feu. Il pensait, ah, elle s'en vient. Puis elle a pris Krishna dans ses bras. Elle a donné son sein à Krishna, mais Krishna, lui, il savait c'était qui, là. Fait que, tu sais, genre, tu niaises pas avec Krishna, là. Tu peux pas tromper Krishna. Alors, Krishna, il a pris son lait, mais en même temps, il a pris sa vie. Puis là, en têtant sa vie, Putana a pris sa vraie forme. Puis elle est morte comme ça. Mais il y en avait un autre. Lui, il a pris la forme d'un petit pâtre. Il jouait avec les autres petits pâtres. Puis il y avait Krishna et Balaram. Puis Krishna et Balaram se parlent entre eux. Puis là, il dit, as-tu vu? Il y en a un qui est arrivé, là. Puis il a passé au bat, celui-là aussi. Balaram, je pense, a réglé son cas. Alors, il y a une question d'acte pieux qui rentre qui compte dans la balance pour aller dans tel ou tel endroit dans l'univers. Tout est contrôlé. Il faut se faire à l'idée. C'est pourquoi un dévot est paisible de nature, parce qu'il comprend justement, c'est le royaume de Krishna. Que ce soit dans le monde matériel ou le royaume spirituel, tout est contrôlé par Krishna, par les lois divines. Alors, qui je suis, moi, comme si j'étais, mettons, une espèce de contrôleur? Qu'est-ce que je peux contrôler? Je peux contrôler peut-être mon désir de m'abandonner à Krishna, mais même à ça, ça prend la grâce de Krishna pour avoir plus de facilité pour s'abandonner à Krishna aussi. On peut avoir un petit peu de désir, mais c'est Krishna qui satisfait les désirs de chacun. On peut pas satisfaire ses désirs par soi-même, juste par ses propres forces. On peut pas s'imposer. On est complètement dépendant de Krishna. Alors, un dévot, il est paisible parce qu'il reconnaît, il doit reconnaître en quelque part que tout est contrôlé par les lois de la nature, soit matérielles, spirituelles. Puis si c'est dans le monde matériel, ben il y a des lois, puis c'est fait comme ça, puis tu peux rien faire contre. Faut accepter, faut composer avec. C'est comme Prabhupada disait quand Prabhupada était dans ses derniers mois, si on peut dire. Prabhupada était bien malade. Il avait dit aux dévots qui s'en occupaient, il dit, pensez pas que ça va pas vous arriver. Ça va vous arriver, vous autres aussi. Alors, c'est les lois de la nature matérielle. Et c'est comme ça. Alors, un dévot qui se tient pour dire, ah, ben, qui a entendu Prabhupada, il le dit, ça. Ça va vous arriver à vous autres aussi. Ben, qu'est-ce qu'il fait, le dévot? Il va chanter Hare Krishna. Il y a une résilience qui doit s'installer dans son cœur face à n'importe quelle circonstance qu'il pourrait avoir dans le monde matériel et ne pas être surpris. C'est fait comme ça. Il n'y a pas de... C'est la même chose que Bhagavad Gita. Arjuna, dans la Bhagavad Gita, ne voulait pas tuer Bhishma, ne voulait pas tuer Dronacharya et autres. Puis Krishna lui explique, c'est juste le corps qui va périr, l'âme ne va pas périr. Et en plus, il y avait une raison pourquoi... Comment la bataille de Kurukshetra est arrivée? Quelle était la cause? Quelle était la cause? Quelle est la réponse?
Gourmandise, avare, il voulait tout avoir pour lui.
Non. Ben, on peut dire, là. Mais une des causes principales.
L'usurpation par Duryodhana du royaume, en fait, qui revenait à
Ouais, ça, c'est une bonne explication. Mais il y a une gaffe qui a été faite, l'offense à Draupadi.
Voilà, oui, quand ils ont voulu lui enlever son vêtement et que
C'est
Krishna
ça.
venait une porte.
Bhishma et Dronacharya ne sont pas intervenus. Ils auraient dû intervenir, mais ils sont pas intervenus. Alors, Krishna, il l'a pas laissé passer celle-là. Dû à une offense à cette pure dévote, Draupadi, bang! La conséquence est la bataille de Kurukshetra.
Et c'est pour
Ah.
ça qu'il dit aussi à Arjuna, de toute façon, si tu les tues pas, ils sont déjà morts. Donc,
C'est ça.
j'ai déjà décidé que c'est comme ça, quoi. Donc, voilà, quoi.
Exactement. Alors, donc, quand Krishna révèle la forme universelle à Arjuna, Arjuna voit dans cette forme universelle que tous ces soldats-là sont déjà tués d'avance. Alors, on peut avoir une certaine volonté, mais ultimement, c'est la volonté suprême qui prime. Alors, notre volonté, elle vaut ce qu'elle vaut, mais il faut pas se penser suprême comme Krishna. C'est Krishna qui a une volonté suprême. Et c'est lui qui contrôle. Comme Prabhupada dit dans une teneur portée du Bhagavatam, en anglais, je vais le dire, là, mais c'est textuel ce que Prabhupada dit. Time and tide wait for no man. Que le temps et les marées n'attendent après personne. Alors, Prabhupada explique à ce moment-là, quand l'heure est venue, tu peux pas rester une seconde de plus dans ton corps. C'est juste it's time to go, my friend. C'est l'heure du départ. Et puis, c'est juste comme ça. Alors, un dévot de Krishna a une résilience, on le dit encore, une tolérance, une résilience, un abandon à Krishna, et il reconnaît la volonté de Krishna dans n'importe quoi. Et puis, malgré tout ça, le dévot ne nourrit aucune rancune par rapport à Dieu. Les matérialistes sont toujours mécontents, en quelque part, parce qu'ils nourrissent ou ils pensent qu'ils peuvent nourrir une certaine forme de rancune ou d'envie par rapport à Dieu, la personne suprême. Tu sais, genre dire, ah, mais si Dieu existait, il pourrait pas arriver telle affaire, telle affaire. Mais comment tu peux savoir justement que Dieu a voulu que justement il y ait telle, telle, telle chose parce qu'il y a une raison pour? Toi, tu ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de telle ou telle personne, puis elle se ramasse dans une condition de vie qui est très misérable. Tu ne sais pas. Mais tu sais qu'il y a des choses misérables qui arrivent dans la vie. C'est aussi simple que ça, là, c'est la vie matérielle, c'est fait comme ça. C'est comme dernièrement, on entend une nouvelle. En Inde, il y a un autobus, puis c'est pas la première fois, puis ce sera pas la dernière fois. Il y a toujours un autobus en quelque part qui fout le camp dans le précipice. Ça arrive. Alors, des avions qui s'écrasent, des bateaux qui échouent en quelque part. Il y a toujours quelque chose. Un volcan qui fait éruption, puis tue tant de personnes, etc. Il y a toujours une calamité en quelque part dans le monde matériel. Ça fait partie de la vie matérielle. C'est genre, ben, t'as voulu venir ici. Tu t'es, pour une raison, pour une autre, t'es tombé dans le monde matériel. Bon, mais ben maintenant, tu vas vivre avec. Il va falloir que tu vives avec. Alors, un dévot, il doit être vraiment humble. Justement montrer à Krishna, bon, ben, je pense que j'ai compris ma leçon. Et puis, s'il y a d'autres leçons à venir, ben, je vais prendre les leçons aussi. Mais je vais chanter avec Krishna, puis je vais essayer de rester conscient de Krishna le plus possible. Ça, c'est un dévot. Et c'est tout. Alors, comme ça, on a lu ici, un très grand privilège est accordé à une âme conditionnée quand elle est capable de réaliser tout de même sa relation éternelle qui l'unit à Dieu par grâce divine, par l'intermédiaire d'un pur bhakta. Puis ça, c'est bien. On avait lu, c'est ce chant même qui garde le dévot constamment engagé dans le service de dévotion offert au Seigneur avec amour. À ses yeux, il n'y a rien de mieux dans la vie. Alors, si on chante pas avec Krishna, parce que c'est facile de chanter, puis c'est facile aussi de ne pas chanter. C'est un ou l'autre. C'est un et l'autre aussi. Alors, mais pour un dévot, devrait réaliser, si je ne chante pas avec Krishna, c'est comme l'asphyxie. Comment on dit ça, le mot comme il faut?
Asphyxie.
Comment dis-le donc encore?
Asphyxie.
Asphyxie. Bon, c'est l'asphyxie de ne pas chanter avec Krishna. C'est automatique. Alors, le dévot doit se ressaisir rapidement parce que l'asphyxie, c'est mortel, c'est pénible. Alors, le dévot doit éviter. Alors, le dévot, faut qu'il chante continuellement avec Krishna, les saints noms, puis se garder conscient de Krishna. Alors, si pour une raison ou pour une autre, il y a un certain laps de temps à ne pas chanter, ben, il faut qu'ils se reprennent et puis chanter avec Krishna. Se remettre dans les bonnes grâces de Krishna. C'est un dévot. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Bon, on va continuer. Alors, Virginie, voudrais-tu lire? Page 42.
Je continue. Je lis en sanskrit ou je passe directement au verset?
Lis le sanskrit. Oui.
D'accord. Pardon pour la mauvaise prononciation.
Pas faire.
Les divers termes d'incarcération dans un corps matériel pour telle ou telle durée de vie sont savamment décrits dans le Srimad Bhagavatam, troisième chant, chapitre 11, verset 33. Evam vidai ahu Ratrai kala gachyopalaksitai apaksitam ivasyapi paramayur vaya satam. Evam, ainsi, vidai par le processus, haha, jour, ratrai par les nuits, kala gatya, la progression du temps, Upalakshitai, par de tels signes, Apaksitam, en déclin, il va tout comme, Asya, sa, Api, bien que, Parama, ayu, longévité, Vaya, en, Satam, sans. Ainsi, le déclin de la vie s'impose à tous les êtres, y compris Brahma. Pour chacun, la durée de l'existence n'est que de 100 ans. Selon la valeur du temps sur différentes planètes. Teneur et portée. Chaque être vit une centaine d'années selon la mesure du temps de la planète où il habite et selon l'espèce à laquelle il appartient. C'est-à-dire que ces 100 années d'existence ne sont pas de durée égale pour tous les êtres. Les 100 années les plus longues appartiennent à Brahma, mais malgré sa longévité, Brahma s'achemine également vers la mort. C'est pourquoi il a lui aussi peur de la mort, ce qui le pousse à prendre part au service de dévotion offert au Seigneur, car il désire s'affranchir des griffes de l'énergie illusoire. Certes, les animaux n'ont aucun sens des responsabilités, mais on voit même des humains qui, eux, possèdent ce sens au plus haut point, perdre leur temps précieux hors du service dévotionnel et vivre béatement, insouciants de leur mort imminente. Telle est la folie des hommes. Un homme pris de démence n'a aucun sens des responsabilités face à l'existence. Et quiconque manque d'acquérir le sens de ses responsabilités avant de mourir ne vaut pas mieux qu'un fou s'efforçant de jouir de l'existence matérielle sans aucun souci du futur. Il est primordial pour chaque être humain de se préparer de façon responsable à sa vie future. Et ce, même s'il jouit d'une longévité égale à celle de Brahma, le plus puissant d'entre tous les êtres de l'univers. La vie humaine irresponsable équivaut au paradis des sots. Qu'est-ce que ça prend pour réveiller un étourdi insouciant du danger que représente la transmigration de l'âme? La douleur immédiate ou la souffrance chronique. La douleur ou la souffrance servent de rappel pour tous les êtres que le monde matériel n'est pas une place pour être heureux. La souffrance est savamment orchestrée par Dieu via son agente, la nature matérielle, de façon à réveiller les âmes conditionnées tout en respectant leur désir de surfer sur des vagues de bonheur occasionnelles, le temps, par exemple, d'une jeunesse en santé qui ne durera pas avec le temps. La vie matérielle révèle son vrai visage sous forme du passage obligé le trois quarts du temps de la jeunesse à la vieillesse, de la santé à la maladie, de la beauté au vieillissement. Et à la fin, les pages du livre d'une vie se ferment pour cause de transmigration forcée de l'âme vers une autre destination. Ainsi, l'âme conditionnée ne connaît aucun répit quant à ses mésaventures dressées sur le chemin de son existence matérielle, naissance, maladie, vieillesse et mort. Et plus elle s'entête à chercher le bonheur dans des actes intéressés, plus elle doit en récolter les fruits sous forme d'alternance perpétuelle de bonheur et détresse, vie après vie. Les exemples abondent, mais les âmes conditionnées n'apprennent jamais de leurs leçons. Il leur faut donc apprendre auprès d'un dhīra, une âme réalisée qui ne connaît pas l'illusion. On retrouve le mot dhīra dans la Bhagavad Gita, chapitre 2, verset 13. Nous présentons ici une classe de Srila Prabhupada qu'il donna à New York le 11 mars 1966. Cette classe présente des points déjà présentés en introduction de la Sri Upanishad. Il est toujours bon de les réentendre. À la lumière de cette classe, il devient encore plus évident d'apprécier la stature spirituelle d'un dhīra, de qui l'on peut se faire une éducation définitive. Sans risque de se tromper en matière de réalisation spirituelle. Voici donc cette longue classe.
Oui, merci. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Oui.
J'avais une question sur, comme Brahma, vous avez une vie énorme et tout ça. Mais les êtres humains, pourquoi on a peur de si peur de mourir quand le corps commence à se décomposer? On n'a plus aucun plaisir avec le corps à part des douleurs et tout ça. Puis on sait qu'on va mourir. Pourquoi l'être humain a si peur que ça? Est-ce que c'est à cause de l'ignorance de l'autre côté qui donne la peur? Ou l'attachement, c'est quoi cette part-là que l'être humain veut dire mourir dans soi?
Bon, c'est une très bonne question. Il n'y a pas une réponse. Il n'y a pas juste un aspect de réponse à ça. Alors, comme par exemple dans la Bhagavad Gita, Prabhupada en parle. Il dit qu'Arjuna aussi avait une crainte. Et disons, ça fait partie des soucis que Arjuna avait. Tu vois, Arjuna a décidé de ne pas combattre à un moment donné. Alors, il y a eu beaucoup d'inconfort et de crainte à cause de ça. Et Prabhupada explique, dans une teneur portée, Prabhupada explique, il dit, ceci est dû à cause de la crainte de mourir. Comment Prabhupada fait le lien avec ça? Mais disons, ça, il faudrait lire la teneur portée en question. Mais c'est dans le premier chapitre de Bhagavad Gita. Et dans un autre endroit, Prabhupada explique pourquoi les gens ont peur de... Tout le monde a peur de mourir parce qu'ils savent pas où est-ce qu'ils s'en vont. Ils savent pas qu'est-ce qui les attend. Alors, ça, c'est une explication. Deuxième explication, c'est que tout le monde a une relation avec Dieu, avec l'être suprême. Et si tu as mené une vie que tu sais T'as fait des activités qui n'étaient pas dans la direction de la satisfaction de Dieu, la personne suprême. T'as d'autant plus de raisons de trembler dans ton pantalon au moment de quitter le corps parce que t'as mal agi. Tu sais, la forme humaine de vie, c'est fait, en fait, pour saisir l'occasion de faire du service de dévotion. Mais si l'être humain n'a pas saisi cette opportunité, soit par ignorance, soit par négligence, c'est trouvé mille raisons, mais il ne l'a pas fait. Alors, au moment de quitter son corps, là, puis en plus, le Bhagavatam m'explique, au moment de quitter le corps, si une personne était très pécheresse, c'est les Yamadouta, elle va voir les Yamadouta qui s'en viennent la chercher. Et les Yamadouta sont horribles, physiquement parlant. Il y a des gens, par exemple, qui sont sur le point de mourir et qui disent à ceux qui sont autour, qu'est-ce qu'ils font là? Eux autres, ils voient. Et là, ils posent la question, mais qu'est-ce qu'ils font là, eux autres? Mais les gens qui sont autour ne voient pas. Mais la personne qui est sur le point de quitter son corps, elle voit. C'est dans le même sens que si un dévot est vraiment béni de Dieu, ce ne sont pas les Yamadouta qui viennent le chercher, ce sont les Vishnu-douta, les envoyés représentants de Vishnu qui viennent chercher le dévot. Alors, c'est pourquoi dans cette forme humaine de vie, il faut essayer d'être propre sur toute la ligne, puis d'être conscient que la forme humaine de vie, c'est genre, tôt ou tard, il faut que tu quittes ce corps. Où est-ce que tu vas aller? Tu ne sais pas nécessairement, mais disons que avec la conscience de Krishna, ton intérêt devrait s'aiguiser pour désirer avoir la compagnie de Krishna. Ça, c'est le but visé dans la forme humaine de vie. Alors, c'est pourquoi Prabhupada, il écrit, le but de la forme humaine de vie, c'est retourner à la maison, retourner à Dieu. C'est pour l'âme spirituelle, c'est pas sa place dans le monde matériel. Tout est fait pour décourager l'âme conditionnée d'essayer de trouver le bonheur indépendamment de Dieu dans le monde matériel. Tout est fait pour ça. On ne peut pas être heureux sans Dieu dans le monde matériel. C'est impossible. On peut avoir l'illusion, il n'y a pas de Dieu, on n'est pas sûr si Dieu existe, il n'y a jamais personne qui est revenu pour nous le dire. Ça, c'est de la foutaise. Parce que oui, il y a du monde qui sont venus nous le dire, justement, Vyasadeva écrit les Védas, les purs dévots, les incarnations de Krishna, Krishna lui-même, Seigneur Chaitanya, les Goswami de Vrindavan. En veux-tu, en v'là, depuis des temps immémoriaux, toujours des maîtres spirituels qui sont présents pour, disons, distribuer la connaissance spirituelle. C'est pas vrai que c'est zéro à ce niveau-là. Est-ce que ça répond à la question?
Oui. Une autre petite question.
Oui.
Si on s'abandonne complètement à Krishna, il n'y a plus de souci de ça, la mort et tout ça. Il fait de nous qu'est-ce qu'il veut parce qu'on s'est abandonné complètement à lui.
Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais si on veut être sûr de notre affaire, faut juste être conséquent avec ça. Et être conséquent avec ça, ça veut dire s'absorber complètement dans le service de dévotion. C'est pas juste le sentiment, je m'abandonne à Krishna, mais oui, mais qu'est-ce que tu fais? T'sais, comme Krishna a dit dans la Bhagavad Gita, mettons, tu dis, là, moi, je vais m'abandonner à Krishna. Je veux m'abandonner. Je te dis, Prabhu, je m'abandonne à Krishna. Parfait. Mais qu'est-ce que tu fais en tant qu'abandonné, à personne abandonnée à Krishna? Krishna, il dit dans Bhagavad Gita, pense toujours à moi, emplis de moi ton mental, pense toujours à moi, deviens mon dévot, donne-moi ton hommage, et ainsi, pleinement absorbé en moi, tu viendras à moi. Chapitre 9, verset 34. Alors, si la personne dit, je vais m'abandonner à Krishna, je vais t'abandonner à Krishna, en retour, il faut qu'elle se pose la question, ben, abandonner à Krishna, ça veut dire, faut que tu penses à Krishna tout le temps. Puis pour penser tout le temps à Krishna, ben, il y a des activités mentales, disons, dans la pensée de Krishna, glorifier Krishna, se rappeler des versets, par exemple, de la Bhagavad Gita, se rappeler les enseignements de Krishna. Il y a des activités mentales qui viennent avec. Dans la Bhagavad Gita, chapitre 6, Krishna décrit le Dhyana Yoga, le yoga de la méditation. Et comme Krishna dit, celui qui est actif à l'intérieur, dont le bonheur se trouve à l'intérieur. Prabhupada, il dit, là, que le dévot est actif à l'intérieur. C'est pour ça que le dévot connaît un bonheur. Prabhupada explique ça aussi. Pourquoi le dévot a un bonheur à l'intérieur? Parce qu'il est actif intérieurement parlant. Alors, pour un dévot, il faut qu'il se trouve tout le temps un engagement au service de Krishna. Alors, il va penser à des versets. Il va penser à des hymnes Vaishnav, des chansons Vaishnav. Il va trouver quelque chose pour occuper son esprit avec Krishna. Alors, si c'est pas avec Krishna, ça va être quelque chose de matériel, d'éphémère, de temporaire. Alors, le dévot, faut qu'il prenne les devants. Alors, c'est pourquoi le chant du Mahamantra, c'est là. Chanter un nombre de tours tous les jours, c'est là. Un nombre prescrit de tours à tous les jours, parce que ça va obliger le mental, ah oui, j'ai un but, il faut que je chante, il faut que je pense à Krishna. Ça va éviter de cette façon-là de devenir séduit par l'énergie matérielle. Ça va? All right. Ben, merci beaucoup, tout le monde, d'être venu au cours, c'est très apprécié.
Merci.
Merci à toi.
Merci à vous.
Et puis, on se revoit dans deux semaines, si Dieu le veut, autant que possible. Merci beaucoup. Allez,
Krishna.
Allez, Krishna. Au revoir.
Merci.
À la prochaine, Haribol.
Portez-vous tous bien.
Oui, portez-vous bien, tout le monde. Bye, Haribol. Jai.
Haribol, Jai.
Jai.